Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité du rapport de l'histoire à la société, actualité aussi du rapport de l'histoire à la politique et de la politique à l'histoire. Hier, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu au domicile de Josette Audin, veuve du jeune mathématicien, membre du Parti communiste algérien, disparu en 1957, pour reconnaître, c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron, la responsabilité de l'État et de la France dans cette disparition. Une question qui était pendante depuis plus de 60 ans maintenant et qui permet effectivement de revenir sur les rapports de la France à cette mémoire de la guerre d'Algérie, qui est d'ailleurs étudiée depuis plusieurs années par les élèves en classe de terminale, Mémoire de la guerre d'Algérie. C'est un des chapitres de leur cours et voilà donc un nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir et nous allons en discuter avec quatre chercheuses et chercheurs. Sylvie Thénault sera au téléphone avec nous. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle a fait sa thèse sur la justice pendant la guerre d'Algérie. Elle était membre de ce comité Audin. Elle nous dira justement ce qu'a été ce combat. Raphaël Branche est également avec nous. Elle a fait sa thèse en histoire sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Rouen et rédactrice en chef de la revue 20e siècle. Malika Rahal est chercheuse à l'Institut d'histoire du temps présent et elle a travaillé sur un autre des disparus de cette guerre d'Algérie à la même époque que Maurice Audin, Ali Boumengel. Elle nous en parlera et Patrick Garcia est également avec nous. Il est professeur à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste des politiques mémorielles des présidents de la République.
Sur la vérité, l'enquête est de plus en plus difficile quand on la connaît de près. Il faudrait que des gens qui n'ont jamais parlé se décident à le faire. Donc c'est compliqué de savoir ce qui pourrait les décider. C'est surtout une déclaration sur la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Parce que François Hollande a fait une déclaration honnêtement scandaleuse. Il a dit « Maurice Audin est mort durant sa détention ». Non, Maurice Audin n'est pas mort dans sa cellule, par exemple, parce qu'il a mis fin à ses jours. Soit il est mort sous la torture, soit il a été étranglé par le temps charbonnier, soit il a été exécuté par un commando. Donc il a été assassiné par une armée agissant dans le cadre des pouvoirs spéciaux, ce qui implique aussi le pouvoir politique. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est attendu, c'est une reconnaissance de la responsabilité de l'État.
Vérité, un titre de Rachida dont on a appris la disparition il y a deux jours. C'était un titre de l'an 2000, extrait de l'album Médina. Et auparavant, c'était un petit extrait d'une émission qui n'avait que trois mois, une émission de la Fabrique de l'Histoire, consacrée à la comparaison entre l'affaire Dreyfus et l'affaire Audin. Et vous participiez, Sylvie Thénault, à cette émission et on vous a entendu disant eh bien, la question de la vérité sur la disparition de Maurice Audin, on ne la connaîtra peut-être jamais exactement, la façon dont a disparu Maurice Audin. Ce qu'on attend maintenant, c'était donc le 14 juin dans la Fabrique de l'Histoire, disiez-vous, c'est une reconnaissance de l'État. Cette reconnaissance de l'État est intervenue hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, Sylvie Thénault ?
Entre-temps, il y a eu une accélération d'un processus qui, en fait, avait déjà été entamé. Les choses ont été relancées à partir de la conférence de presse conjointe des députés Cédric Villani et Sébastien Jumel en février, qui ont enclenché une sorte de nouveau combat, réactivé un combat pour la reconnaissance de la responsabilité de l'État.
Un député LREM, donc Cédric Villani, oui. un député du Parti communiste Sébastien Jumel.
Oui, c'était déjà symbolique, je crois, des réactions que j'ai cru percevoir depuis cette déclaration d'une possibilité de se rassembler au-delà de clivages partisans politiques sur la question quand même des valeurs de la République qui ont du sens finalement, elles font sens pour tout le monde et notamment bien sûr les droits de l'homme. Donc à partir de la conférence de presse de Sébastien Jumel et de Cédric Villani en février, bien il y a eu des consultations de la part de l'entourage d'Emmanuel Macron qui avait été sensibilisé à la question. Dès son élection, il s'était manifesté auprès de Josette Audin, parce qu'il faut savoir que Josette Audin a écrit, après chaque élection présidentielle, au nouveau président, enfin au président nouvellement élu, pour demander qu'on l'aide à connaître la vérité sur le sort de son mari et qu'on reconnaisse les responsabilités de l'armée et de l'État dans sa mort. Et Emmanuel Macron a répondu dès son élection. Il avait déjà eu un premier geste, mais qui était resté privé. Enfin, il lui avait téléphoné, en fait. Et donc, après la conférence de presse de Sébastien Jumel et Cédric Villani, ben, il y a des consultations qui ont commencé dans l'entourage du président, auprès d'historiens, d'archivistes, et puis aussi de personnes impliquées dans la lutte pour la reconnaissance. Il y a une association Maurice Audin qui existe et qui rassemble des gens d'horizons divers, mais qui sont unis sur cette base-là. Et donc en juin, lorsque j'étais venue vous parler, les consultations avaient eu lieu, mais on avait le sentiment que rien n'avançait, en tout cas nous ne savions pas ce qui se passait, et donc c'est pour ça que j'avais tenu les propos que vous avez rediffusés, et tout s'est accéléré ensuite pendant l'été avec le travail autour du texte qui donc a été rendu public avec cette visite au domicile de Josette Audin.
Ce texte, bonjour Raphaël Branche, il dit quoi exactement de neuf sur cette affaire Audin, mais plus largement sur la question des disparitions pendant la guerre d'Algérie de la part d'un président de la République?
Ah ben pour dire les choses très simplement, ce texte met fin à un mensonge d'État. Tout simplement, il reconnaît la responsabilité de l'État, c'est-à-dire du pouvoir politique, dans la mort de ce militant communiste, en précisant, et c'est, il me semble là, la vraie portée historique du texte, hein, en précisant que cette mort n'aurait pas été possible si les forces de l'ordre qui l'ont arrêté, torturé et exécuté n'avaient pas agi sur ordre.
Et donc, d'une certaine façon, vous dites que ça met fin à un mensonge d'État. Ça veut dire que dans le milieu des historiennes et des historiens, vous avez travaillé sur la torture pendant la guerre d'Algérie, Sylvie Thénault a travaillé sur la question de la justice d'exception pendant cette même guerre d'Algérie, vous avez fait vos thèses à la fin des années 90, depuis vos travaux, nous avions lu des questions autour de cette disparition de Maurice Audin et d'autres disparus, où Malik Haral sera tout à l'heure avec nous à propos de la mort d'Ali Boumengel, sur laquelle elle a travaillé, militant donc algérien, pendant la même période de 1957. Donc on pouvait dire qu'on était tous au clair par rapport à ce que s'était passé à ce moment-là, en particulier pendant la bataille d'Alger, mais il n'y avait pas eu le geste politique, c'est ce que vous voulez dire?
Ah oui, tout à fait, je parle d'un mensonge d'État, c'est-à-dire que la vérité historique, scientifique, autant qu'on pouvait la connaître, évidemment, elle est toujours révisable, elle était connue depuis bien longtemps pour le cas de Maurice Audin, le travail de Pierre Vidal-Naquet en 1958, l'affaire Audin est extraordinaire de ce point de vue-là, parce qu'il a réussi à avoir des documents, il a mené une enquête et il a établi le mensonge, déjà, le premier mensonge qui a camouflé la vérité, et depuis on a fait des travaux, mais moi par exemple dans mon travail, j'ai pas avancé, Pierre Vidal-Naquet m'appelle la veille de ma soutenance en me disant « Est-ce que vous avez retrouvé Audin ?» Mais non, j'ai pas retrouvé Audin, et lui c'était son combat. Mais non, on n'avait pas beaucoup de neuf.
Il faut rappeler qu'il était dans votre jury de thèse,
ouais,
Pierre Vidal-Naquet,
ouais,
ce moment-là.
C'était un grand honneur. En réalité, depuis, des choses ont été retrouvées. Des journalistes, en particulier Nathalie Funès, a beaucoup travaillé, a essayé de trouver des témoins supplémentaires. On a eu d'autres pistes, Sylvie les a évoquées il y a un instant. Mais on est finalement toujours dans le même doute. Et d'ailleurs, la déclaration officielle rend compte, hein, avec une formulation double. Torturé à mort ou torturé et exécuté, on a toujours ce doute.
Oui, justement, cette déclaration va-t-elle très loin et jusqu'où va-t-elle d'une certaine façon, cette déclaration du président de la République, dont il faut peut-être préciser les termes, Sylvie Thénault?
Oui, c'est une chose qui pour moi a été un petit peu désagréable, je dois le dire, hier, c'est que beaucoup de gens ont parlé du texte et c'est très bien de son contenu, mais les mots ont été pesés et très soigneusement choisis, parce qu'il y avait quand même un exercice d'équilibriste qui n'est pas tout à fait facile. C'est que aller vers une reconnaissance générale de la pratique de la torture et des disparitions pendant cette guerre à partir du cas de Maurice Audin ne permet pas, en fait, sur le plan historique, d'exposer tous les mécanismes de la pratique de la torture pendant cette période. Dans le cas d'Audin, on est dans le contexte de la bataille d'Alger, les pouvoirs de police par l'armée et donc cette fameuse loi des pouvoirs spéciaux qui implique directement le pouvoir politique. Mais si vous prenez des pratiques de torture que Raphaël connaît très bien, hein, dans le contexte par exemple d'une opération de ratissage dans un village où une unité débarque dans un village, fouille toutes les maisons, emmène des gens à la caserne et avec tout ce qui peut s'en suivre, là vous avez des pratiques de torture qui sont dans des contextes très différents. Donc il y avait un défi pour pouvoir généraliser à partir du cas de Maurice Audin. Et là, il y avait un travail à faire pour rester dans la vérité historique, ne pas trahir la vérité historique, mais en même temps permettre cette reconnaissance générale. À mon sens, ce qui a permis de relever ce défi, c'est que la disparition de Maurice Audin, en fait, c'est un symbole. Et donc, on peut aller au-delà de la bataille d'Alger. C'est la figure emblématique de la lutte en France, de la dénonciation en France de la pratique de la torture, avec bien sûr l'affaire Henri Alleg. Et donc cette fonction symbolique faisait qu'on pouvait généraliser à partir de son cas. Et il fallait peser les mots aussi pour ne pas blesser. Et donc éviter, et les mots du texte sont faits pour ça, éviter de montrer du doigt des individus, même si bien sûr, je tiens à le dire, les individus restent responsables de leurs actes et chacun pourra faire son examen de conscience, parce que c'est important. Mais il fallait sortir aussi d'une culpabilisation générale. Ouais. Donc il y a un exercice d'équilibriste, mais je crois que le travail sur le texte a été soigné, sérieux, long, et c'est ce qui lui a permis d'exister tel qu'il est aujourd'hui.
Alors, nos concitoyens ont peut-être été surpris de voir cette expression dans le texte du président de la République, le système arrestation-détention mis en place à la faveur des pouvoirs spéciaux qui avaient été confiés par voie légale aux forces armées à cette période. Raphaël Branche, qu'est-ce que ce système arrestation-détention recouvre pour pouvoir donc dire ce qui s'était passé pendant cette période particulière de la guerre d'Algérie?
Mais c'est exactement l'ambiguïté que vient de noter Sylvie, et c'est sans doute elle qui pourrait mieux parler de ce système, puisque c'est le versant légalisé, en fait, de la répression. Ce qui me paraît intéressant, donc pour revenir sur ce système, donc il s'agit en fait sans doute du fait que l'armée intervient en Algérie, il faut le rappeler, dans un cadre de paix. Et donc on a un trouble sur quels sont ses moyens dès le début, dès 1954, et donc dès le début, en fait, le pouvoir politique va courir un petit peu après l'armée pour encadrer ce qu'elle fait sur le terrain. Donc ça s'appelle l'état d'urgence dans un premier temps, et puis ça s'appelle surtout les pouvoirs spéciaux à partir de 56. Et puis à Alger en 1957, il se passe un pas supplémentaire, notamment parce qu'on découvre l'importance de la pratique de la torture dans des centres de détention pas très légaux. Donc il y a toute une légalisation un peu a posteriori des pratiques de l'armée. Et donc notamment la mise en place d'un système qui va couvrir le fait que l'armée a le droit d'arrêter et a le droit de détenir pendant une période donnée les gens qu'elle considère comme suspects. Donc c'est ça dont il est question, mais en réalité, plus intéressant, bien sûr, le mot système permet de faire exister l'idée que c'est un dispositif répressif large au sens où il est politique, répressif pour atteindre un but politico-militaire qui est mis en place à ce moment-là.
Sylvie Tenneau, justement, sur ce terme, système arrestation-détention qui a été utilisé par la déclaration du président de la République.
Alors, en fait, c'est un terme qu'on trouve dans les archives et qui était couramment utilisé à l'époque pour essayer, en fait, de désigner la façon dont on allait encadrer légalement l'action des militaires. Finalement, les législations d'exception, elles viennent encadrer des pratiques de terrain. Les militaires arrêtent des gens, de fait, les détiennent, de fait, les interrogent, de fait. Eh bien, venons cadrer légalement ça, et c'est ce que fait le décret des pouvoirs spéciaux en leur autorisant officiellement. Il y a une, ce n'est pas le texte qui crée le système, mais il y a une interaction entre ce qui se fait sur le terrain et le pouvoir politique qui organise, voilà. Alors, du coup, on parle d'un système arrestation-détention parce qu'on est en dehors du système du droit commun. On est en dehors de la garde à vue, la procédure judiciaire. Donc c'est un système arrestation-détention qui signifie aussi que l'armée a en partie, dans ses missions en Algérie, un travail de police. Parce que le FLN et les militants pour l'indépendance, en fait, mènent des actions qui ne sont pas que des actions strictement militaires. Vous avez des collectes de fonds, vous avez de la propagande, vous avez tout un travail de soutien au maquis avec les contrebandes de médicaments, le ravitaillement, l'hébergement de nuit. Tout ça, ce sont des réseaux. Et lutter contre des réseaux, eh bien, ça veut dire pouvoir chercher du renseignement, arrêter des gens, etc. Donc le système arrestation-détention, ça désigne une forme de système de lutte contre cet ennemi qui est là sur un terrain qui n'est pas vraiment normalement celui des militaires. Et donc, on met en place un système par le droit qui repose sur ce fondement de l'exercice des pouvoirs police par l'armée.
Bon, Raphaël Branche, et je donnerai ensuite la parole à Malik Haral, qu'on n'a pas encore entendu, ainsi qu'à Patrick Garcia.
Non, je voulais juste évoquer quelque chose qui date d'avant la période dont on parle là, qui est un texte très important de l'été 1955, pour juste que peut-être les gens comprennent ce que ça veut dire une responsabilité politique. C'est le texte qui va, en fait, légaliser les exécutions sommaires qui ont cours pendant toute la guerre en Algérie et qui commencent dès le début de la guerre. C'est une instruction interministérielle où les ministres expliquent tout simplement que les forces de l'ordre ont le droit de tirer sur toute personne qui s'enfuirait à leur approche, sous réserve d'avoir fait 3 sommations. Donc c'est ce texte, très très précoce dans la guerre, qui fournit un cadre, tout ce qu'il y a de plus légal, et qui est vraiment un texte politique, et qui va donner lieu à tous ces assassinats, donc notamment celui de Maurice Audin, par exemple.
Alors, vous êtes avec nous au téléphone également, Malik Haral, vous êtes spécialiste de la mémoire de la guerre d'Algérie en Algérie contemporaine, et vous êtes l'auteur d'un livre sur Ali Boumendjel, qui a été assassiné pendant cette même période, en 1957. Il était militant indépendantiste, il avait été formé, donc depuis très longtemps, à vouloir combattre justement la colonisation française, et il disparaît pendant cette période, il est assassiné. Donc pendant cette période, qu'est-ce que cette reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin a pour conséquence sur des personnes comme celles sur lesquelles vous avez travaillé, comme Ali Boumendjel, et peut-être sur l'ensemble de ceux qui ont été les victimes de ce système donc d'arrestation, détention dont parlait le président de la République hier?
Oh ben c'est un effet en même temps symboliquement très fort, et pour reprendre ce que disait Raphaël Branche, c'est un effet de mise en cohérence, c'est-à-dire que du côté algérien où Audin n'est que un parmi des milliers d'autres cas de disparus simplement dans la bataille d'Alger, hein, simplement en 1957, cette version selon laquelle les militaires font disparaître, torturent et assassinent, et la version également selon laquelle les gouvernements successifs ont une responsabilité dans ces violences qui sont perpétrées en Algérie, elle ne fait aucun doute. Des gens comme Maurice Audin sont considérés comme des martyrs, sont honorés comme des martyrs, Audin, Boumendjel et tant d'autres. Et donc la reconnaissance aujourd'hui politique, elle met en cohérence ce qu'on sait déjà, avec un discours côté français. Alors à voir ce que ça va, ce que ça va susciter dans les mois et dans les semaines qui viennent, comme discussion, comme débat ou comme réaction aussi des historiens. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'apaisement du discours qui peut se produire de l'autre côté de la Méditerranée.
Oui, vous voulez dire que il y a là un acte qui est posé par la France. Est-ce que cet acte ne va pas aussi mettre en difficulté les autorités algériennes, parce que à partir du moment où on dit on va ouvrir les archives sur la question des disparus de la guerre d'Algérie du côté français et permettre peut-être de faire la vérité sur la façon dont ces personnes ont disparu, eh bien on met aussi en demeure peut-être le gouvernement algérien de faire la même chose, d'ouvrir les archives de l'autre côté de la Méditerranée, Malik Karaal.
Oui, c'est vraiment une question délicate. Ce qu'il faut imaginer, si on reste sur la question de la bataille d'Alger, par exemple, ce qui ferait avancer les choses encore, ce qui permettrait de poursuivre, outre l'ouverture des archives côté français, ça serait par exemple de rassembler l'ensemble des témoignages qui ont pu être récoltés dans les mois et dans les années passées pour effectuer par exemple un certain nombre de recherches physiques sur le terrain. Alors vous voyez bien que là, on dépasse complètement le travail des seuls historiens. C'est pas un collectif d'historiens qui vont se mettre ensemble pour aller creuser ici ou là. Et on sait bien que dans les sociétés qui ont procédé à ce type de recherche, c'est extrêmement lourd comme démarche, d'une part. C'est extrêmement secouant pour une société, c'est troublant. Et ça nécessite aussi des institutions ou des associations qui sont prêtes à rassembler en même temps des chercheurs, souvent en même temps des militants, en même temps des gens qui sont des praticiens de la recherche sur le terrain et qui peuvent dialoguer avec des pouvoirs publics qui sont prêts à s'engager dans cette voie. À l'heure actuelle, côté algérien, pour des tas de raisons parfois très bonnes, ça me paraît difficile. Je vois pas ça arriver dans un avenir immédiat. On est quand même dans une société pour laquelle cette guerre a été extrêmement large et dans un pays dont l'histoire après l'indépendance n'a pas été toujours aisée. Il y a eu un autre conflit dont on a parlé juste avant la fabrique de l'histoire sur France Culture dans les années 90. On n'est pas dans une situation un peu apaisée où on pourrait aller puiser comme ça dans le sous-sol les traces de cette histoire.
Malheureusement, effectivement, peut-être aussi le fait que, comme ça a été souligné par la presse hier, Emmanuel Macron n'a pas de compte à rendre personnellement par son âge à cette guerre d'Algérie. Eh bien, peut-être cela facilite-t-il la question de l'apaisement mémoriel. On va voir ça dans un instant, mais d'abord un titre de Rachita auquel nous voulions rendre hommage après l'annonce de sa disparition il y a 2 jours. C'était Voilà, voilà.
France Culture. La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Partout, partout sur la France. Voilà, voilà que ça commence.
concert.
Voilà, voilà, un titre de 1993 tiré de l'album 12 France qui a été repris dans son album, l'album Zoom par Rachida en 2013. Et nous voulions donc tirer un coup de chapeau, chapeau qu'il portait très bien, à Rachida dans cette émission d'aujourd'hui. Alors, cette émission d'aujourd'hui traite justement des rapports entre France et Algérie à travers le cas de la mémoire de la guerre d'Algérie, qui est d'ailleurs au programme pour tous les lycéens de terminale depuis un certain temps. Et vous êtes également avec nous, Patrick Garcia, vous n'êtes pas encore intervenu. Vous êtes, vous, spécialiste des politiques mémorielles des présidents de la République. Comment inscririez-vous la déclaration d'Emmanuel Macron hier dans l'ensemble des politiques mémorielles? On a commencé cette émission avec un coup de gueule, pourrait-on dire, de Sylvie Thénault qui disait en juin dernier dans la Fabrique de l'Histoire que la déclaration de François Hollande sur la disparition de Maurice Audin, qui disait qu'il était mort pendant sa détention simplement, était une déclaration honteuse. Là, ça n'est pas une déclaration du même type en l'occurrence. On avance dans les politiques mémorielles sur la guerre d'Algérie?
Écoutez, moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a une espèce de logique, presque de logique irrésistible. À partir du moment où on est rentré dans une politique de reconnaissance, ce moment c'est le Veldiv, c'est le discours de Chirac,
le 1995.
À partir de là, on rentre dans une logique qui est une logique où à la fois la reconnaissance s'impose et en même temps la question qui se pose de ce fait, c'est que l'État se trouve déséquilibré. Je rebondis sur le terme employé par Sylvie Thénault tout à l'heure, le terme d'équilibriste. Effectivement, c'est une politique d'équilibre. Comment on arrive à rééquilibrer le fait de sortir de la raison d'État, du mensonge d'État, et la reconnaissance. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est un mouvement qui n'a cessé d'aller de l'avant. Il n'y a pas de régression, y compris le candidat de l'anti-repentance, Nicolas Sarkozy, fait un président de ce point de vue-là assez ordinaire, une fois qu'il est arrivé au pouvoir.
Et pourtant, Brice Hortefeux, un de ses proches, dans Le Parisien ce matin, critique la décision d'Emmanuel Macron en parlant justement de repentance et en disant que assez de repentance et plus de mémoire, dit-il. C'est, oui, c'est curieux, généralement on demande plus d'histoire, mais là il demande plus de mémoire. Voilà.
Non mais bon, le terme de repentance est un terme indu. Le terme de repentance, c'est la reprise, c'est un terme qui vient du vocabulaire religieux, c'est la reprise de la déclaration des évêques de France à Nancy, une déclaration de repentance, et ça a été utilisé pour désigner la reconnaissance en disant qu'en fait, la reconnaissance était une autoflagellation. Donc on est dans un discrédit, on retrouve ça dans d'autres pays, hein, parce que la France n'est pas le seul pays, hein, c'est un mouvement assez général des démocraties, je dirais même d'une certaine manière, à quoi reconnaît-on une démocratie véritable? C'est au regard lucide qu'elle peut porter sur son passé. Mmh. Ce mouvement de reconnaissance, il traverse le monde, les démocraties, à partir des années 90. Donc il y a un mouvement, un mouvement, une logique. Mais évidemment, cette logique, elle prend du temps. Je veux dire, le dossier algérien, entre parenthèses, entre guillemets, il commence à être ouvert par Jacques Chirac, qui a du mal, qui a été officier en Algérie, ouais, mais qui a quand même un ambassadeur qui reconnaît, à cet type, c'est pas rien, en 2005, massacre commis par la France. Et à partir de là, jusqu'où va-t-on? Effectivement, là où on change de registre avec la déclaration d'hier d'Emmanuel Macron, c'est qu'on rentre dans une pleine et entière reconnaissance, en tout cas sur la question de Maurice Audin, et qu'on ouvre à partir de là une nouvelle séquence, sans doute.
Oui, c'est justement cette question de cette nouvelle séquence qui s'ouvre. Je sais qu'on ne demande pas aux historiens, aux historiennes, ce qui va se passer demain, mais plutôt ce qui s'est passé hier à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui.
C'est plus sûr.
Mais Raphaël Branche, justement, cette séquence qui s'ouvre peut ressembler à quoi, d'une certaine façon? Parce que, évidemment, tout ce qui se présente devant nous est possible. Il peut y avoir, on évoquait tout à l'heure avec Maïli Kakaral, des discussions avec le gouvernement algérien, mais il peut y avoir aussi des freinages de la part de telle ou telle institution. On voit bien que, par exemple, l'institution militaire a des difficultés à reconnaître ce qui s'est passé pendant cette période et donc à critiquer certaines des actions militaires pendant cette période, par exemple, Raphaël Branche.
Alors, c'est une vaste question. Évidemment, comme vous l'avez dit, je ne peux pas y répondre. Mais en même temps, il y a deux axes. Il y a l'axe algérien-franco-algérien sur lequel je reviendrai si j'ai le temps. Mais moi, je voudrais plutôt commenter et réagir sur ce que vient de dire Patrick Garça et préciser quelque chose. C'est-à-dire que je pense que cette déclaration, elle est essentielle, elle est très très forte, puisqu'elle reconnaît un passé, elle reconnaît la réalité d'un passé, en fait, qui était connue de tous. Donc elle met une sanction politique et de fait, pour un certain nombre d'acteurs, elle valide leur interprétation. Je pense aux soldats qui se sont sentis coincés dans ces ordres qui n'étaient pas clairs et qui étaient pourtant des ordres. Mais la grosse différence avec le Veldiv, c'est qu'on parle de la République. Et là, il y a un lien avec le présent et avec le futur. La République comme régime et la Ve République plus précisément, si on veut réfléchir sur ce qui s'est passé en Algérie depuis 1958, où les pouvoirs spéciaux, il faut le dire, ont continué d'être pertinents. Et donc là, il me semble que ce qui peut s'ouvrir, c'est évidemment des réflexions sur l'armée de la République, le maintien de l'ordre, la lutte contre le terrorisme et les moyens à utiliser contre lui. Ce sont des questions qui sont françaises, mais pas seulement. Et dans ce sens, il ne s'agit pas simplement de ce que l'armée peut éventuellement aujourd'hui avoir à dire de son passé, mais c'est en quoi elle parle de son passé pour parler de son présent. Dernier élément du présent et du futur, évidemment, c'est la dimension, pour dire vite, post-coloniale de la société française et la trace de cette histoire coloniale dans notre société. Et il me semble que là, vous avez sans doute noté que dans ce texte, il n'y a aucune référence au colonial. Mm-hmm. On est dans une myopie, on s'arrête sur les dernières années de la période coloniale de la France qui a commencé bien avant 1954. Mm-hmm. Et sans doute que là, il y a quelque chose qui est encore à attendre.
Oui, il faut peut-être aussi attendre d'autres décisions à venir. Oui. On sait qu'il y a le rapport, par exemple, sur les spoliations coloniales dans nos propres musées. Mm-hmm. Et donc, on voit bien effectivement qu'il y a peut-être à plusieurs étapes dans cette reconnaissance possible. Sylvie Thénault.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je voudrais réagir à ce qu'a souligné tout à l'heure Patrick Garcia, mm-hmm. avec l'exemple des excuses de l'ambassadeur de France à Sétif en 1995. Il y a quelque chose qui l'a fait la force du geste et de la reconnaissance qui n'était pas le cas en 1995. Quatre éléments, je vais aller vite. Premièrement, il y a la légitimation par le combat de la famille. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Sans le combat de Josette Audin, il n'y aurait rien eu.
Oui, d'accord. Parce qu'elle mène le combat dès le départ, en 1957, et elle n'a jamais cessé.
Et elle n'a jamais arrêté avec des relais autour d'elle. Mais du coup, il y a, je trouve personnellement, et j'y suis sensible même comme historienne, une dimension sensible. Mmh. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il me semble qu'au-delà du politique, il y avait quelque chose de sensible et tout le monde a été touché. Deuxièmement, par rapport à la déclaration de l'ambassadeur de France en Algérie en 1995, ici on est dans un contexte où on est détaché d'enjeux, je dirais, bassement politiques. Quand l'ambassadeur de France en Algérie en 1995 présente des excuses, ça s'inscrit dans un contexte de relations, de gestion des relations bilatérales franco-algériennes. En gros, il y a un froid, faut faire un geste, paf, il dit, pardon, c'était 2005.
2005, oui, c'est ça.
Excusez-moi. Il y a un froid, faut dire quelque chose, l'ambassadeur dit quelque chose. Mais ça perd de sa force parce que on voit tout de suite l'enjeu bassement politique. Mmh. Il y en a peut-être des enjeux politiques dans cette déclaration-là du point de vue d'Emmanuel Macron, mais ils n'apparaissent pas en tout cas en premier. Et puis surtout, c'est justement parce qu'on n'est pas prisonnier du contexte franco-algérien que cette déclaration est forte. Mmh. On s'adresse à la société française, on prend en charge la question, tout ce que Raphaël a dit, des enjeux de cette histoire dans la société française d'aujourd'hui. Donc du coup, je dirais que d'une certaine façon, la déclaration n'est pas souillée par un impératif de relation avec l'Algérie, par un impératif concret, conjoncturel de base politique.
Donc c'est
extrêmement différent d'une déclaration qui est portée par un ambassadeur
bien
en
sûr.
2005.
Même si au bout du compte, cela peut avoir des conséquences effectivement dans les relations franco-algériennes. Malika Rahal.
Oui, moi je voudrais
rebondir sur deux ouvertures possibles. Effectivement, et là aussi je rebondis sur ce que disait Raphaël Branche, la question de la condamnation beaucoup plus large du colonialisme qui est absent pour le moment de ce texte et dont, pour ma part, j'espère que c'est l'horizon vers lequel on peut arriver d'avoir un discours beaucoup plus global sur ce que c'est que la domination coloniale et ce que c'est que le rapport entre la République et le colonialisme. Et la question aussi des victimes. On a ici un combat qui a été mené par à l'époque, en 1957-58 et encore aujourd'hui, qui est mené par cas, et c'est bien normal, on a des cas qui ressortent de la masse des victimes et de la masse des disparus. Se pose alors ensuite la question de savoir comment, au-delà de ces victimes remarquables, de ces victimes qui ont des familles, qui sont en mesure de mener le combat, qui ont aussi des caractéristiques, qui sont des intellectuels ou des militants communistes ou des Français ou des femmes et qui, en tant que telles, mobilisent autour d'eux mobilisent autour de leur mémoire des groupes qui peuvent lutter, se pose la question des victimes de façon beaucoup plus large. Mmh. Et je voudrais mentionner la possibilité d'arracher ces victimes anonymes aux archives. On n'a pas à l'heure actuelle d'archives, et il n'est pas certain qu'on en trouve d'ailleurs, d'archives qui nous permettent de toutes les nommer, de toutes les connaître, de toutes les compter. Simplement dire qu'il y a une initiative conjointe actuellement entre l'association histoirecoloniale.net et le comité Maurice Audin pour travailler sur un ensemble sur un fichier ayant recueilli les plaintes d'un certain nombre de familles en 1957 à Alger. Donc ils ne sont pas un fichier de disparus, mais qui sont un fichier de familles qui viennent demander des nouvelles de telle ou telle personne. Que ce fichier devrait être mis en ligne dans les jours qui viennent, permettant d'avoir accès à des noms et à des fiches de demande de renseignements et fournissant la matière qui permettra de demander à des témoins possibles de venir donner des informations sur ces personnes que l'on recherchait en 1957 pour savoir si elles ont décédé, si elles ont réapparu, si elles ont été finalement libérées, et rapprochant le travail des historiens sur les archives avec le travail de chaque famille là où elles sont actuellement.
Patrick Garcia, une des questions que l'on peut se poser, c'est la motivation, même si on ne peut pas en être dans la tête du président de la République, on aimerait bien parfois, mais ce n'est pas le cas, la motivation d'Emmanuel Macron dans cette affaire Audin et la façon dont il fait cette déclaration. On peut se demander sa vision de l'histoire. Il était venu nous l'exposer avant son élection à la Fabrique de l'Histoire, mais on peut se demander cette vision de l'histoire, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a la possibilité ou la volonté chez lui de dire, puisqu'on va reconnaître, eh bien, le conflit va s'apaiser ou les conflits de mémoire vont s'apaiser. C'est une vision que l'on peut comprendre par sa propre formation, par exemple, Patrick Garcia.
Oui, quand on lit Emmanuel Macron, quand on l'écoute, hein, quand il était venu à la Fabrique, il y a effectivement cette conception qu'on trouve chez Ricoeur, hein, l'idée que
la mémoire juste.
À un moment, oui, faut aller vers une juste mémoire. Hein, l'idée que l'oubli est quelque chose ou le déni est quelque chose qui empêche la société de bien fonctionner. Donc, effectivement, on a là une théorie de la reconnaissance, hein, une théorie pratique. Je crois que là, de ce point de vue-là, c'est très clair.
Mmh. Raphaël Branche, sur cette question, effectivement, de ce que l'on peut percevoir par cette acte isolé pour l'instant d'une vision historique justement et des questions d'apaisement de mémoire d'un président de la République comme Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut en tirer une leçon ou est-ce qu'il faudra attendre qu'il y ait d'autres actes qui viennent conforter une sorte de puzzle dont on n'a pas encore toutes les pièces?
Ah voilà, je crois que vous avez tout dit. Non, moi je suis bien incapable d'interpréter au-delà de ce que j'ai vu hier, à savoir, et de ce que j'ai lu aussi dans le texte. Mais il me semble qu'évidemment il a... Ben voilà, c'est un politique, donc voilà, il prend des risques, hein, il prend des risques mesurés. Là en l'occurrence, qui s'est levé vent debout contre cette position hier toute une partie de la droite extrême. C'est sans doute à son avantage et sa manière de travailler.
Qu'il a salué la totalité de la gauche, d'une certaine façon aussi, par ailleurs.
Et pas que de la gauche, heureusement.
Non, pas que de la gauche, mais
ne sont
voilà,
pas à cela,
bien sûr.
Précisément, et c'est ce qu'il essaye de faire. Hein. Donc, de ce point de vue-là, l'histoire lui sert. En même temps, je pense qu'effectivement, je ne peux qu'abonder dans ce que vient de dire Patrick Garcia, effectivement.
Sylvie Thénault, sur ce point.
Oui, je voudrais revenir un petit moment quand même sur la question de la colonisation, parce que n'oublions pas que c'est le même homme qui est en campagne en Algérie.
Oui, bien sûr.
Et que la colonisation est un crime contre l'humanité. Alors c'est un contexte compte maintenant différent, c'est
bien
spontané,
sûr.
C'est pas réfléchi. Mais il n'y a pas de lien entre les deux, il n'était pas question. Je ne sais pas si ça aurait été pertinent de rappeler ce moment-là, qui était quand même moins pensé. Mais il y a forcément quelque chose là qui est de l'ordre de la cohérence dans le regard jeté sur le passé. Mmh. J'ajouterais que hier, lors de sa visite chez Josette Audin, Emmanuel Macron a cité Ricoeur précisément. Hein, une question précise sur ce qui, éventuellement, dans son parcours personnel, a pu le sensibiliser à cette histoire. Mais il a parlé d'une formation avec des lectures de Ricoeur. Et puis, dernier point sur l'extrême droite, effectivement... Mais moi, ce qui m'a frappé hier, c'est que l'extrême droite, elle se rebelle au prix du mensonge. Ce que dit Marine Le Pen, c'est que Maurice Audin hébergeait des terroristes. Et alors ça, vraiment, aucun historien ne peut l'admettre. Il y avait des membres du PCA qui étaient impliqués dans les actions terroristes, mais ce n'était pas son cas. Et donc, j'ai trouvé ça très significatif que la réaction la plus vivement opposée à la déclaration repose sur un mensonge historique.
Et vous pensez, vous, effectivement, que ce qui va se passer demain, après-demain, sur cette question des disparus, comme l'évoquait tout à l'heure Malika Rahal, peut avoir des conséquences, enfin, ça peut être la conséquence, justement, d'une déclaration comme celle du président de la République hier ?
En fait, pour moi, tout dépend vraiment de l'implication des familles. Le projet qu'évoquait Malika Rahal sur la possibilité d'établir une liste des disparus nommément identifiés et connus, je trouve que c'est un beau projet mémoriel. Le problème est que dans cette opération-là, comme dans toute autre, on risque l'erreur, on risque l'approximation. C'est un beau projet délicat à réaliser. J'espère que ceux qui vont le mener pourront s'entourer de toutes les précautions nécessaires. Mais encore une fois, moi j'insiste vraiment là sur la dimension sensible des familles de cette histoire, pardon, et de ces déclarations. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui peut être fait maintenant doit avoir aussi une portée réparatrice pour ceux qui ont souffert. Mmh. Donc je pense que c'est moi ce qui me guide, ce qui me guiderait, plus que la question du politique derrière, quel autre geste il pourrait y avoir, etc. Quand on travaille des historiens, nous cheminons depuis tellement d'années, toutes les uns et les autres, que je ne peux pas vous dire qu'on peut prévoir des répercussions sur le travail des historiens.
Bien sûr. Très brièvement, Raphaël Branche, Patrick Garcia et Malika Rahal pour conclure.
Non, je voulais juste évoquer sur la question des disparus. Il existe depuis des années, et je les ai connus d'assez près, une commission en fait franco-algérienne sur la question de quelques disparitions, des cas qui ont été soumis par des familles et côté algérien et côté français. Il se trouve que dans mon livre sur les prisonniers du FLN, j'en ai croisé certains. Donc c'est des soldats français qui ont disparu dans les mains du FLN contre des militants algériens qui ont disparu dans les mains des Français. Et donc les deux États travaillent de concert depuis des années pour les retrouver et c'est quasiment impossible.
Ah oui. Patrick Garcia.
Oui, juste sur les suites, très très brièvement, l'idée, hein, je rappelle que l'idée, quand il y a eu le discours du Veldiv de 95, c'était de mettre un point final, la reconnaissance s'arrête là. C'est toujours l'ambition du politique.
Mais ça ne marche jamais.
Mais ça ne marche jamais.
Malika Rahal, très très brièvement.
Très brièvement, juste pour dire que les familles des victimes ne sont pas absentes. Moi, depuis que je fais de l'histoire, je reçois des emails un peu désespérés de gens qui savent pas très bien vers qui se tourner et qui me disent, voilà, moi, mon oncle, mon frère, mon père ont disparu. On me dit qu'ils ont été enterrés dans un puits. On me dit qu'ils ont été assassinés ici. On me dit que peut-être ils sont dans un charnier. Est-ce que vous avez des archives? Est-ce que vous pouvez me dire? Donc, du côté des victimes, tout le monde n'est pas en mesure de mener des grandes opérations très suivies auprès auprès de l'administration et en particulier de l'administration française. Mais ces familles, elles sont là. Il faut aussi être sur le terrain pour pouvoir les entendre.
Merci à tous les quatre d'avoir commenté cette déclaration historique, disent beaucoup d'entre vous, de Emmanuel Macron hier à propos de l'assassinat de Maurice Audin. Et je vais vous faire écouter, puisque dans cette émission du vendredi, il y a toujours une séquence où nous travaillons avec Retro News à une archive tirée de la presse des deux derniers siècles, un article de l'Humanité écrit par, il ne s'appelait pas encore Ho Chi Minh, c'était en 1922, ça s'appelle « Aux colonies ».
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
L'humanité aux colonies. 1er juin 1922. Égalité. Pour masquer la laideur de son régime d'exploitation, le capitalisme colonial décore toujours son blason pourri avec la devise idéaliste « fraternité, égalité, etc. » Voici comment ce champion d'égalité entend la mettre en pratique. Dans le même atelier et pour le même travail, l'ouvrier blanc est plusieurs fois mieux payé que son frère de couleur. Dans les administrations, les indigènes, malgré la durée de service et malgré l'aptitude reconnue, touchent un salaire de famine, tandis qu'un blanc nouvellement pistonné reçoit des appointements supérieurs en faisant moins de travail. Des jeunes indigènes, ayant fait leurs études dans les facultés de la métropole et obtenu leur doctorat en médecine ou en droit, ne peuvent pas exercer leur profession dans leur propre pays s'ils ne sont pas naturalisés. On sait combien de difficultés et d'humiliations un indigène doit subir pour obtenir cette naturalisation. Arrachés de leurs terres et de leurs foyers, enrégimentés par force comme volontaires, les indigènes militarisés ne tardent pas à savourer l'exquise signification de cette égalité fantomatique qu'ils défendent. Au même grade, le gradé blanc est presque toujours considéré comme le supérieur du gradé indigène. Celui-ci doit le salut et l'obéissance à celui-là. Cette hiérarchie ethno-militaire est encore plus frappante lorsque des militaires blancs et des militaires de couleur voyagent ensemble sur un train ou sur un bateau. Prenons comme exemple le fait le plus récent. Au mois de mai, le vapeur Liger, partant de France pour Madagascar, avait 600 soldats malgaches à son bord. Les sous-officiers indigènes étaient entassés dans les cales, pendant que leurs collègues, les sous-officiers blancs, étaient confortablement installés dans les cabines classées. Puissent nos frères de couleur, surchauffés par la chaudière, sinon par l'idéal, et réveillés par le bruit des hélices ou par la voix de leur conscience, réfléchir et comprendre que le bon capitalisme les considère et les considérera toujours comme des simples holomaloto, ce qui veut dire personne sale en malgache.
Voilà donc un article signé donc par celui qui deviendra ensuite Ho Chi Minh en 1922 dans l'Humanité aux colonies. Et l'actualité va très vite au point qu'on en viendrait presque à oublier. Catherine de Copé, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Il y a une semaine, nous parlions tous d'écologie, de défense de la planète. Nous vous retrouvons pour une nouvelle saison de votre chronique La Fabrique de l'Hôte. Et ce mois-ci, pour faire honneur justement à la journée du climat et toute la mobilisation qu'elle a suscité cette année, vous intéressez au mot écologiste.
Qui sont donc ces écologistes et quand sont-ils nés? Alors pour répondre, il faut s'intéresser à l'apparition du terme écologie qui est assez jeune dans l'histoire des mots. Il n'a été inventé qu'au 19e siècle, en 1866 pour être précise, par un biologiste allemand Ernst Haeckel. À l'origine, comme l'a bien montré l'historien Patrick Matagne, Haeckel crée ce néologisme pour prendre acte de la pensée darwinienne qui a le mérite de donner une seule explication à de nombreux phénomènes. Écologie est ainsi censée remplacer le terme biologie, considéré alors comme trop restrictif. Dans ce contexte, Haeckel, très féru de néologisme, hein, soit dit en passant, va donner à l'écologie plusieurs définitions, mais celles-ci n'ont en fait pas beaucoup de rapport avec celle qui se consolide à la fin du XIXe siècle et qui fait de l'écologie une science à part entière, celle des êtres vivants en rapport avec leur environnement. Et en cette fin du XIXe siècle, c'est sous la plume de botanistes que le terme réapparaît, en particulier le Danois Eugen Warming, considéré comme le père de l'écologie scientifique. Ce qui
préoccupe Warming en 1895 comme d'autres, ce sont les causes de répartition des végétaux sur la planète. À ses débuts, l'écologie est donc profondément géographique, mais elle va progressivement être irriguée par d'autres réflexions touchant par exemple à l'économie, à l'activité humaine, pour finalement devenir cette approche systémique des êtres vivants et de leur environnement.
Alors en parallèle de cette science se développe surtout au XXe siècle, Catherine, la préoccupation pour l'environnement.
Les êtres humains n'ont pas attendu le XXe siècle, évidemment, pour se préoccuper de la nature. On peut le voir dans les travaux des naturalistes dès le XVIIIe siècle. Mais le XXe siècle, c'est celui des grandes catastrophes industrielles et d'une prise de conscience de l'impact humain sur la planète, sous le coup des guerres notamment. C'est le siècle où on assiste à une invention politique de l'environnement, pour reprendre les termes de deux historiens, invention héritière de courants de pensée très divers. Du coup, dans les années 60, l'écologie désigne de plus en plus cette nouvelle préoccupation, nourrie évidemment de travaux scientifiques. Et elle se traduit par la formation progressive des premiers mouvements de ce qu'on appelle l'écologie politique, symbolisée entre autres par la première candidature à l'élection présidentielle française d'un partisan de l'écologie, c'était en 1974 avec l'agronome René Dumont. Dans les années 70, les mouvements d'écologie politique qui se structurent se revendiquent plutôt écologiques qu'écologistes. Il faut attendre la fin de la décennie et les années 80 pour que le terme écologiste s'impose, comme le montre par exemple la formation de la Confédération écologiste, l'un des ancêtres des Verts.
Alors au tournant des années 80, l'écologiste désigne autant le chercheur en écologie que le militant politique, justement, des Verts.
Oui, mais cette double acception ne va pas durer et figurez-vous sous la pression des scientifiques eux-mêmes qui inventent le terme écologue pour distinguer leur activité du militantisme politique ou associatif. Bientôt diminué familièrement en écolo, avec parfois une connotation péjorative, n'est-ce pas ? Le terme écologiste, s'installe dans la langue, mais toujours avec un certain flou. Les écologistes, ce sont autant les militants des partis politiques, qui mettent donc cette défense de l'environnement au centre de leur programme, mais ce sont aussi des citoyens plus ou moins engagés, qui réfléchissent à une évolution de leur mode de vie. Au sein même de la classe politique, certains défenseurs de l'environnement ont voulu parfois accoler des adjectifs à écologistes pour mieux se retrouver sous cette bannière. On voit ainsi apparaître les écologistes pragmatiques. Le mot évolue donc au gré des aléas politiques de la mouvance, qui a toujours peiné à trouver une vraie reconnaissance dans les urnes. Mais au vu de la mobilisation pour le climat de la semaine dernière, vous en parliez, partout dans le monde, on est en droit de se demander dans quelle mesure les citoyens de tous bords ne sont pas en train de reprendre à leur compte cette étiquette.
Merci Catherine, et au mois prochain pour une nouvelle chronique, La Fabrique de l'Autre. On peut retrouver votre page en attendant sur le site de France Culture qui s'inscrit dans la grande thématique de cette semaine de France Culture autour de la question de l'environnement et de l'histoire de l'environnement. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et par Céline Leclerc. Élise Le était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Et vous le savez, l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end avec Jean-Noël Jeannet et Concordance des temps qui recevra demain Jacques Rupnik pour parler de la Pologne. Et puis la semaine prochaine, nous serons sur un tout autre sujet puisque nous parlerons des lieux d'écrivains, la façon dont ces lieux d'écrivains ont pu influencer l'histoire de l'écriture, mais également l'histoire de la littérature et également comment aujourd'hui ils sont patrimonialisés. Notre invité de lundi sera la grande historienne Michèle Perrault. Nous parlerons de George Sand et de Nohant.